哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
Histoire de Palestine. Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Aujourd'hui, vie et résistance à Gaza, entretien avec Sarah Katz.
Nous avons commencé à évoquer Gaza dans notre dernière émission. Et pour mieux vous en parler, nous avons invité aujourd'hui Sarah Katz, bien connue des collectifs et associations soutenant les Palestiniens. Laissons de suite la parole à Sarah, qui va nous raconter tout cela. D'abord, qui es-tu, Sarah Katz ?
Aïe, aïe, aïe. Bonjour à tous. Un très, très grand merci à Radio Larzac. Je suis née en 1950 et je vous assure que parler de Gaza sur Radio Larzac, pour moi, ça a un très, très profond sens. Alors, qui je suis ? Je suis née dans une famille de militants communistes, résistants tous les deux, couple formé juste à la fin de la guerre, mais résistants tous les deux, chacun de leur côté. Mon père FTP clandestin pendant toute la guerre, parce que portant un nom juif. Voilà, donc j'ai été élevée dans cette idéologie, avec l'idée que j'ai eue longtemps, jusqu'à déjà être une grande adolescente, que 1945 était une date magnifique. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte, eh bien que non, que 45 c'est aussi les massacres à Septif, à Guelma, que si le nazisme avait été mis à terre, les idées brunes ne l'étaient pas du tout, et en particulier, le colonialisme était toujours ce qui dominait le monde en général. Donc voilà, mon engagement pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, je crois qu'il date de là. Alors, je fais partie, peut-être les auditeurs connaissent peu, je suis l'héritière de cette histoire des juifs européens qui ont perdu la religion depuis plusieurs générations. Moi, je nais dans une famille athée, probablement mes grands-parents l'étaient déjà. Donc le sentiment d'appartenance et le sentiment de responsabilité sur l'histoire du peuple ashkénaz, je dirais, il n'est pas lié à une question de religion, il est lié à une idée d'universalisme, c'est-à-dire l'idée que sur Terre, toute personne a les mêmes droits que d'autres. Et c'est ça qui a fait que, très naturellement, j'étais dans les manifs, j'avais vu mes parents être dans les manifs pour l'Algérie, j'étais dans les manifs pour le Vietnam, toute ma vie, bon, j'ai milité comme j'ai pu, et dès que j'étais en retraite, je suis partie en Palestine.
Donc on peut dire que ton histoire, tes origines, il y avait une logique finalement à ton engagement. Il n'y a pas eu un élément déclencheur particulier. C'était inscrit pratiquement dans ton histoire.
Oui, je dois dire que c'était inscrit dans mon histoire. Et en ce sens, j'ai le sentiment profond d'avoir une responsabilité pour faire connaître, ne pas laisser mourir cette idéologie des résistants, qui était réellement l'idée qu'il n'y a pas de solution au monde autre que le droit égaux pour tous. C'est vraiment, j'ai biberonné ça avec l'aide de ma mère, si j'ose dire, et ça a orienté toute ma vie.
Donc voilà, donc ton engagement pour la Palestine, on le comprend, mais il y a peut-être une particularité chez toi, c'est tu t'es intéressé à Gaza. Alors comment tu en es venu à t'intéresser particulièrement à Gaza?
Alors je ne me suis pas intéressée particulièrement à Gaza, si j'ose dire. C'est Gaza qui s'est imposé. Dès que j'ai été en retraite, je me suis efforcée d'aller le plus souvent possible en Palestine. À l'époque, on pouvait avoir un visa de 3 mois, puis il fallait ressortir et puis re-rentrer. Donc voilà, j'ai fait ça un certain temps. Et en 2011, il y a eu un appel. 2011 a été une année terrible pour les militants pro-palestiniens parce que à Jénine, où je travaillais à ce moment-là dans le camp de réfugiés de Jénine, à la Maison des Femmes, comme bénévole bien sûr, et c'est le moment où Giuliano Merskamis a été assassiné. Et puis, quasiment dans les mêmes moments, Vittorio Arrigoni a été assassiné à Gaza. Et il y a eu un appel du mouvement auquel appartenait Vittorio, qui est le mouvement ISM, International Solidarity Movement, pour dire ceux qui peuvent, venez, on va affréter un car et on va rentrer à Gaza pour dire que nous, militants internationaux, on n'a pas peur et on continuera le soutien. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Gaza, en répondant à cet appel qui s'appelait Vic to Gaza, parce que justement j'étais retraitée, j'avais les mains libres. Donc j'ai abandonné un petit moment ma Maison des Femmes et je me suis précipitée avec le convoi pour Vittorio. Et c'est comme ça que j'entre à Gaza pour la première fois.
Mais ce qui est un petit peu particulier dans ton engagement, c'est que toi, contrairement à beaucoup d'autres militants étrangers, tu as séjourné de longs moments à Gaza. Donc tu as, on peut dire, une certaine connaissance de la société gazaoui.
Oui, c'est-à-dire que dans le convoi, on était accompagné par un certain nombre de Gazaouis, de militants et de non-militants d'ailleurs, qui aidaient, qui facilitaient notre présence là-bas. Et j'ai noué tout de suite des relations très fortes avec un couple Gazaoui, lui médecin palestinien. Elle tombait amoureuse de ce médecin pendant ses études et qui est pianiste et prof de musique. Et donc il m'avait dit tout de suite, puisque tu le peux, tu dois revenir à Gaza. Et c'est en ce sens que Gaza, on dit toujours, hein, ça paraît un slogan, quand vous quittez Gaza, Gaza ne vous quitte pas, mais c'est tout à fait vrai. Parce que Gaza, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Vous avez, à l'époque il y avait un peu moins, mais on va dire pour faire vivre 2 millions de personnes qui sont strictement en cage. Et ça, c'est une expérience au 21e siècle, hein. C'est une expérience quand même très très particulière, et c'est pour ça que dès que j'ai pu, je suis retournée pour des séjours de quelques mois, et puis finalement j'ai séjourné 18 mois continuellement à Gaza. Donc tout sommé, j'ai une connaissance j'ai arpenté Gaza pendant 2 ans. Voilà.
Alors justement, moi j'ai sous les yeux un livre d'Hervé Kampf qui s'appelle Gaza, la vie en cage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'il en est effectivement de la vie quotidienne à Gaza, dont la vie associative et la vie politique?
Oui, tout à fait. Je suis très contente de cette question parce que il y avait tellement, tellement d'idées fausses qui traînent sur Gaza. Je me souviens que quand j'ai commencé à dire j'y retourne, y compris des gens qui étaient plutôt pro-palestiniens, qui me disaient mais pas à Gaza tu vas voir, on va te mettre des chiffons sur la tête et tu ne pourras plus bouger, ça n'a rien à voir avec Gaza. Gaza, c'est une société dans une situation totalement anormale, c'est-à-dire un blocus, quelque chose qui rappelle le Moyen-Âge, hein, un blocus physique, hein, c'est entouré de partout, un blocus, mais c'est une société normale. C'est une société normale, elle est socialement stratifiée, vous avez des riches, des pauvres, vous avez des croyants, des incroyants, vous avez des femmes, des hommes, vous avez des jeunes, des vieux, des travailleurs intellectuels, des travailleurs manuels. C'est un bout de société humaine tout à fait normale, coincé dans une situation complètement anormale. Donc à Gaza, on vit Gaza, en plus, c'est le côté sud de la Méditerranée, ça a les côtés extrêmement chaleureux de ces sociétés. Donc, c'est très facile de vivre à Gaza, c'est très doux quelque part, c'est très doux, sauf que on apprend que ça a tiré sur la barrière de sécurité, il y a eu deux morts, on apprend ceci, on apprend cela, par moments il y a des vagues de bombardements terribles, voilà. Mais en dehors, si j'ose dire, de ça, et en dehors de la pauvreté qui gagne, parce que un morceau d'humanité ne peut pas vivre sous blocus, c'est une société dans laquelle il fait bon vivre. On danse à Gaza, on rit, les jeunes ont... Il y a un très haut niveau d'éducation à Gaza. Les jeunes suivent des études, même s'ils savent qu'à 95% sortant de l'université, ils n'auront pas de travail. Ils font des études et c'est une des caractéristiques sur lesquelles je veux insister sur la société de Gaza. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont volontaires. Ils sont volontaires pour toutes sortes de tâches. La société civile à Gaza, elle a une organisation à la base, sans chichi, mais par quartier, par rue, etc. Il y a des petits centres d'enfants. Et ça s'appuie beaucoup sur la jeunesse qui n'a pas de boulot et qui va donner son savoir, son temps pour que la société tienne. Donc Gaza, c'est d'abord et avant tout une société civile qui va aussi bien que possible dans cette situation totalement horrible, quoi.
الجلال والجمال والسماء والبهاء في رضا في رضا والحياة والنجاة والهناء والنجاة في هوى في هوى هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما موطني الجلال.
Alors, je vais te demander un exercice très difficile pour nos auditeurs, c'est que leur donner quand même quelques points de repère. Est-ce que tu peux donner des jalons historiques de Gaza assez rapidement, hein, voilà.
Oui, très volontiers, parce que ça fait partie aussi des idées fausses sur Gaza. On a réussi à implanter dans l'idée des gens ici que Gaza, malheureusement, il est puni parce qu'il a mis au pouvoir des affreux, dangereux, violents, machin. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Gaza. Gaza, c'est un morceau de la Palestine. Il faut bien voir qu'entre mer Méditerranée et Jourdain, vous avez à peu près autant de juifs israéliens que de palestiniens. Sauf que les palestiniens, ils ont 5 ou 6 statuts différents. Il y a ceux qui sont en Israël stricto sensu, il y a ceux qui sont en West Bank, et en West Bank il y a 3 statuts différents, il y a Jérusalem et il y a Gaza. Et quand vous êtes à moitié-moitié et qu'une moitié de la population n'a aucun droit, comment vous faites pour tenir? Eh bien vous la divisez, en morceaux qui ne peuvent pas interagir. Et ça, c'est la politique d'Israël depuis 48 en réalité. Hein. Donc, Gaza, c'est ce qui lui arrive à Gaza. C'est un effet de cette politique. Et les restrictions de mouvement des Gazaouis ne sont pas du tout dues au vote de 2007, pas du tout. Elles ont commencé dès 94. C'est-à-dire la première barrière physique autour de Gaza, elle date de 1994. Donc voilà, Gaza, c'est une des expressions du colonialisme israélien. C'est une des manières de tenir la population réputée dangereuse. Et cette manière est particulièrement féroce, mais ce n'est pas facile non plus pour les gens de Cisjordanie. Hein. C'est facile nulle part. Mais ça, il faut bien le comprendre. Et je rajouterai une petite couche. Gaza n'a pas voté différemment en 2007 que le reste de la Palestine. Il y a eu, sur toute la Palestine, en gros, une majorité faible, d'ailleurs, pour le Hamas, une grosse minorité pour le Fatah. Et ça, c'est vrai sur toute la Palestine. Gaza n'a pas voté différemment de cela. C'est une très, très brève... je dirais guerre civile hein, qui a eu à Gaza, qui a fait que les armes ont parlé et que au bout d'un moment le Fatah qui voulait en réalité prendre le pouvoir à Gaza a dû sortir et que le Hamas s'est trouvé en responsabilité de Gaza. Mais c'est ça l'histoire telle qu'elle s'est passée. Donc il n'y a pas de raison. Aucune raison, de punir collectivement la population de Gaza. C'est en réalité l'application d'une politique qui s'applique partout, aussi bien à Jérusalem-Est qu'en Cisjordanie qu'à Gaza.
Pour en savoir un petit peu plus sur la vie à Gaza, on peut aller aussi voir sur les entretiens en fait, que fait Ziad Medouk régulièrement, qui s'appelle « Gaza la vie ». Et
absolument.
Donc là, on voit bien en fait que la vie des Gazaouis est une vie comme la nôtre. Et c'est intéressant donc d'aller voir les nombreuses vidéos qu'on peut avoir un accès très libre.
Absolument. Je rajouterais, pas du tout pour les opposer, hein, mais pour dire qu'on a du matériel. Si on veut savoir ce qui se passe à Gaza, on peut le savoir. Je rajouterais dans la même idée la chaîne de petites vidéos qui s'appelle Gaza Stories, qui est faite par un jeune cinéaste qui s'appelle Iyad Alastal, et qui, pareil, décrit... il doit y avoir maintenant une centaine de ces vidéos, hein. Dès qu'il prend un cas particulier, une personne, suit un... Et pareil, ça permet de savoir réellement ce que c'est que la vie à ras de la vie à Gaza.
Tout à fait, tu fais bien d'en parler. Nous l'avons accueilli d'ailleurs l'année dernière à Millau. Voilà. Alors, peut-être au point où on en est aujourd'hui, maintenant, là, on pourrait peut-être parler un petit peu du côté agricole de la production à Gaza. C'est une région riche qui produit beaucoup. Donc peut-être peux-tu nous en parler un peu plus ?
Tout à fait, c'est, pour moi c'est très important. Je voudrais juste en rajouter une toute petite couche sur ce que c'est que vivre à Gaza en donnant une anecdote vécue. Je rentre, c'est la nuit. La nuit, il n'y a pas d'éclairage, hein, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Je rentre jusqu'à mon quartier, j'avais été dans un meeting, je rentre jusqu'à mon quartier, je marche au bord de la route, comme d'habitude, avec la tête nue, avec sur les épaules le keffieh qui est plus ou moins identifié quand même avec la gauche à Gaza. Une voiture s'arrête avec trois jeunes gens dedans qui me demandent où je vais. Je leur explique que je vais, ça s'appelle Barcelona, l'endroit où j'habitais, Tel Alawa. Ils me disent, montez, on va vous amener. Donc, ils m'amènent. Et au moment de sortir, je sors le petit shekel qu'on donne lorsqu'on est pris un taxi dans le tissu urbain de Gaza, et il me dit non, je ne suis pas un taxi, je vous ai emmené. J'ai dit, mais enfin, vous avez aidé, je vois bien que vous êtes détourné de votre route, etc. Il me dit, mais non, je ne veux absolument pas d'argent, je vous ai vu au bord de la route, vous avez l'âge d'être ma mère, et jamais je ne laisserai ma mère au bord de la route. Voilà, c'est ça Gaza, il faut bien le comprendre. C'est d'autant plus violent de savoir ce qui arrive à cette population. Alors, dans la politique israélienne, le vecteur directeur, c'est interdit de produire. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ramener les Palestiniens sous leurs différents statuts au rang de devoir dépendre entièrement de la charité, entre guillemets, internationale. Ils s'acharnent à ça et toute une partie des décisions prises par la colonisation vont dans ce sens, interdiction de produire. Et donc, ceux qui sont au premier rang pour se battre contre ça, les paysans, les pêcheurs, payent un tribut particulièrement lourd à cette politique. Les terres agricoles de Gaza, Gaza, ça a une tradition agricole qui est attestée depuis des siècles et des siècles et des siècles, et une tradition de pêche qui est attestée depuis des millénaires. Donc Gaza, c'était beaucoup, beaucoup d'agrumes, d'arbres. Mais le colonisateur a décidé qu'il ne pouvait pas y avoir d'arbres sur Gaza parce que les gens pourraient se cacher derrière. Donc l'écrasante majorité de ces magnifiques vergers ont été coupés, ravagée. Néanmoins, la terre est bonne à Gaza, donc elle peut produire, et en particulier, elle peut produire des légumes, qui est ce que la population aurait le plus besoin au quotidien, d'avoir un peu de nourriture fraîche. Donc, les paysans maintiennent en terre les cultures. Ils les maintiennent dans des conditions invraisemblables, parce que les terres agricoles sont le long de la barrière de séparation, pour la raison que la barrière de séparation, elle a coupé les champs. Hein. Ce qui est de l'autre côté, qui sont des soi-disant des kibbutz, etc., c'était les terres des villages gazaouis, hein, qui ont été coupées en deux. Donc les terres agricoles sont là, et les gens qui travaillent sur ces terres sont à portée de fusil de l'armée israélienne. Toute la barrière de séparation est longée par une route qui est sans arrêt patrouillée par des tanks et des jeeps. Et il faut savoir que à peu près tous les 200 mètres, il y a une tourtueuse. Alors je voudrais faire un tout petit détour sur la tourtueuse parce que c'est quand même quelque chose d'invraisemblable. C'est une tour qui ressemble un peu à un champignon. Et puis, à un moment donné, le haut du champignon s'ouvre, les armes sortent et ça tire. Et ça tire pour de vrai. Hein. J'ai vu le premier cadavre que j'ai vu dans ma vie, ça a été un jeune qui avait pris une balle dans la tête par ce genre de tourtueuse. Seulement dans la tour, il n'y a personne. La personne qui a décidé qu'elle ouvrait et qu'elle tirait, elle est à Tel Aviv avec un joystick dans les mains et elle décide de la vie et de la mort des paysans au travail. C'est ça. Quand on dit il s'obstine à cultiver, il faut dire qu'il s'obstine à cultiver dans ces conditions-là. Et il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Alors, la barrière s'ouvre tous les deux ou trois jours, d'énormes bulldozers rentrent, écrasent les champs, les paysans remettent en culture, etc. C'est pour ça que d'aider les producteurs, et en particulier d'aider les paysans, je crois que c'est une démarche absolument fondamentale, parce que il ne s'agit pas de parler de la terre en abstrait, la terre qu'on défend, c'est la terre qu'on cultive, c'est la terre qui donne de quoi manger à la population. J'étais très liée à ça. Il y a depuis 2016 un grand programme pour aider à l'irrigation des terres agricoles. Ça a commencé dans le sud-est, autour du village de Couza, parce que c'est un village où j'avais été beaucoup pendant que j'habitais à Gaza. Et puis on a été rejoint en 2020 par une grosse association formidable qui s'appelle Humanitaire et un programme avec une pépinière solidaire avec un mécanisme de récolte des propos des paysans, de ce qu'ils disent dont ils ont absolument besoin a été mis en route. Donc si les auditeurs le veulent bien, qu'ils aillent voir par exemple sur le site de l'UJFP ou sur le site d'Humanitaire les programmes d'aide aux paysans de Gaza, je pense que c'est une chose importante.
Pour rajouter un petit point, il faut rappeler quand même que le problème de l'eau est un problème général en Palestine, hein, puisqu'en fait elle est captée par les Israéliens et que la part revenant aux Palestiniens est limitée, mais en plus à Gaza, l'eau est saumâtre. Donc elle ne peut être bu et par ailleurs, elle n'est pas toujours compatible avec le maraîchage et la production des arbres.
Tu as tout à fait raison. La question de l'eau, elle est tout à fait première et elle est totalement un exemple de la trahison, je dirais, de la communauté internationale. Pourquoi l'eau rentre dans la nappe phréatique de Gaza? Parce que la nappe est pompée tout le long de la barrière de séparation par des puits, par les Israéliens. Elle est pompée de manière aberrante, complètement aberrante. Quand j'étais sur les champs de Couza, où nous essayions à quelques dizaines d'internationaux de nous mettre en bouclier humain entre les tireurs d'élite de l'autre côté de la barrière et les paysans qui travaillaient dans notre dos. Quand j'étais là, on voyait les arrosages sur les soi-disant kibbutz, 24-24, je veux dire, un gaspillage d'eau invraisemblable, l'idée étant de rendre Gaza invivable. Et ça, quand même, on a eu en 2014, je crois, un rapport de l'ensemble des organisations onusiennes présentes à Gaza qui s'appelait « Gaza 2020, sera-t-il vivable ?» La connaissance est claire sur ce qui se passe à Gaza, sur pourquoi l'eau de mer a envahi la nappe phréatique, mais rien ne bouge. Et je voudrais donner une anecdote. Je crois que c'est en 2013, la communauté européenne annonce à grand flonflon qu'ils vont créer une usine de désalinisation de l'eau de mer. Et un grand raout a lieu avec la consulat adjointe du consulat de France à Jérusalem pour la première pierre de cet édifice. Les paysans se regroupent à l'appel de leur syndicat UAWC et viennent entourer l'endroit où a lieu la cérémonie, très calme, très tranquille, avec des grandes banderoles pour expliquer pourquoi ils sont là. Ça agace beaucoup la consul adjointe. Elle me repère et elle me dit « Mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là » Et je lui explique ce qu'ils vous disent, c'est la chose suivante. Les solutions techniques, elles peuvent exister, mais rien ne peut s'arranger pour de vrai que si l'on empêche le pompage de l'eau de la nappe phréatique en amont. Et ça, il y a un droit de l'eau, il y a un droit international de l'eau qui l'empêche. Donc ce qu'ils vous demandent, c'est d'empêcher le pompage de la nappe phréatique en amont. Et elle me répond, ah oui, mais ça, on peut pas. Voilà, c'était d'une clarté absolue, absolue. Donc le déni du droit international et le fait que l'ensemble du monde dit développé ferme les yeux sur ce déni explique la situation actuelle à Gaza, qui fait qu'effectivement, soit il faut avoir des petites stations de désalinisation, soit il faut se tourner vers les quelques produits qui supportent encore le sel, dont les tomates, ce qui fait que beaucoup de gens font des tomates, ce qui fait que quand les tomates sont mûres, elles inondent le marché et elles sont vendues à des prix de misère. Ça, c'est pas un accident matériel, c'est pas un accident naturel, c'est le résultat d'une politique qui est connue et pour laquelle la communauté internationale ne fait rien.
Tu nous as bien expliqué que finalement, vivre, c'est d'abord résister. Mais la résistance, elle prend aussi d'autres formes. Il y a des débats qui existent dans la société palestinienne entre résistance violente, résistance non violente. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous parler un peu de la résistance des Palestiniens à Gaza et du soutien?
Oui, je suis contente d'aborder ce sujet. Première chose pour dresser le paysage, à Gaza, on parle politique tout le temps. Tout le temps, avec passion. Vous entrez dans un taxi, c'est la seule manière de se déplacer, hein, c'est des grands taxis collectifs. Vous entrez dans un taxi, au bout de 5 minutes, le chauffeur vous a expliqué, vive le Hamas, abat le Hamas, je pense ceci, je pense cela. Les gens débattent très volontiers de politique et très volontiers de l'offre politique qu'ils ont à Gaza, qui est une offre qui va de l'extrême gauche au parti religieux, hein, et vous avez tout l'éventail possible. Et ils débattent avec passion de ça, mais avec une idée avec une défiance. Je pense qu'elle est généralisée maintenant. Une défiance des organisations avec l'idée que finalement, ça va pas dépayser les Français, hein, on connaît ce problème, hein, que finalement les organisations vont avoir plus d'intérêt à défendre leur intérêt d'organisation qu'à défendre vraiment Gaza et la Palestine. Alors, cette question de résistance violente, résistance non violente, je pense qu'il faut l'aborder de front. D'abord, il faut savoir ce qu'on dit quand on dit violent. Hein. Actuellement, si un enfant jette une pierre en direction d'un char, d'un tank, c'est considéré comme violent. Vous imaginez la disproportion de force. Vous imaginez cette petite pierre dans une petite main et l'énorme tank qui roule maintenant. Mais c'est considéré comme violent. C'est-à-dire qu'on accepterait d'une population que le fait qu'elle murmure et encore pas trop fort, mais surtout qu'elle n'ait aucun geste. Ça, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Et nous, en France, on est tellement fiers de la résistance pendant l'occupation. Hein. On a des monuments un peu partout à nos résistants. On les montre avec les fusils. Eh bien oui, pourquoi les résistants français ont pris les armes? Parce qu'ils ne supportaient pas l'occupation de leur pays. Et pourquoi il y a aussi de la résistance armée, je ne dirais pas violente, je dirais armée, et parce que c'est totalement naturel qu'une population qui est mise dans une situation de déni total de justice, eh bien parmi elles, il y ait des gens qui choisissent la lutte armée. C'est aussi normal que de l'eau coule du haut vers le bas. On peut se référer à ce que dit, je crois que c'est très important, ce que disait Mandela avec beaucoup de force. Il disait, la forme des résistances, finalement, c'est pas le résistant qui l'a choisi. C'est l'occupant. C'est l'occupant. C'est l'occupant qui impose. Alors, il y a des groupes armés dans toutes les appartenants, regroupés à tous les partis politiques à Gaza. Sauf que certains disent qu'ils s'arment et qu'ils apprennent à lutter en défensif, et que d'autres disent non, il faut aussi qu'on aille porter les armes du côté contre l'occupant. La vraie question, elle n'est pas elle n'est pas vraiment là. Je ne sais pas si je pourrais convaincre les auditeurs, mais je voudrais dire la chose suivante. Quand j'arrive à Gaza, je fais partie des gens, probablement hautement majoritaires, que l'envoi des roquettes par le Hamas et par le djihad énervait particulièrement, en disant ça ne sert absolument à rien, ça va s'écraser dans le sable, c'est effectivement ce que ça fait, et ça ne sert à rien qu'à donner de l'eau au moulin de la propagande israélienne. Au bout de 15 jours, j'avais vu mon premier mort avec une balle dans la tête, j'avais vu dans un arbre des restes d'enfants parce qu'un char avait trouvé nécessaire de tirer tout d'un coup, et quand j'ai vu partir ma première roquette, j'ai pensé bien fait. Alors je ne dis pas que c'est politiquement la meilleure chose, je n'en sais rien, mais ce que je dis, c'est qu'il faut bien comprendre que quand vous êtes dans une situation où vous êtes comme des lapins en cage et de temps en temps une main vient vous tuer, évidemment qu'on veut dire qu'on existe. Et parmi les manières de dire qu'on existe, ce qu'ils ont trouvé, c'est pour une partie d'entre eux, c'est de tirer des roquettes. Moi, je n'ai pas de jugement contre ça, aucun. Ce que je peux dire, c'est que ça se discute beaucoup à Gaza, et pas tellement sur l'aspect vraiment roquette, sur l'aspect que c'est coûteux pour une population d'avoir des factions armées, parce qu'évidemment, elles ne travaillent pas, il faut les nourrir, il faut les cacher, donc c'est lourd sur le dos d'une population. Très souvent, les gens protestent, disent que ça ne sert à rien, jusqu'à ce qu'il y ait des bombardements généralisés, et là, le fait qu'il y ait des gens qui sachent se battre, ça sert. Ce que peut-être les auditeurs ne savent pas, c'est que quand il y a de grands bombardements, 2008-2009, 2012, 2014, les tanks entrent dans Gaza. Ils entrent, mais ils sont arrêtés. Tant que c'est les champs, ils arrivent à passer, même si les paysans essayent de faire quelque chose. Mais quand ils arrivent en tissu urbain, ben, y a suffisamment de gens et suffisamment d'armes pour les bloquer. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas jusqu'à la mer, qui est au départ visiblement leur projet. Donc voilà, pour essayer de résumer ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Quoi qu'il arrive, si vous mettez une population dans une situation d'injustice absolue, vous aurez de la lutte armée. C'est absolument normal. C'est pourtant pas ma tasse de thé, mais même le général de Gaulle s'en était aperçu, il l'avait dit par rapport à 67, par rapport à la Palestine. Donc vous aurez. Après que nous, que des militants se sentent plus à l'aise, ce qui est mon cas, moi je hais les armes, je pense qu'ils se sentent plus à l'aise pour défendre telle ou telle manière de se battre, très bien, mais ne jugeons pas, ne jugeons pas.
Ramallah, de chaque côté de ce mur, il y a de plus en plus de voix contre l'occupation qui dure. Tant qu'il y aura des réfugiés, des occupants, des occupés, des oliviers déracinés, tant qu'il y aura des prisonniers, des occupants, des occupés, des oliviers déracinés, la Palestine résistera. Palestine résistera.
Bon, alors ben justement, on va parler concrètement de ta résistance à toi, et notamment les flottilles. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de ces flottilles ?
Eh bien oui, parce que c'est un bel exemple de ça. Les flottilles, c'est une idée formidable et c'est une idée strictement non violente. Strictement. Et depuis le premier jour 2008 jusqu'à maintenant, les flottilles affirment, expliquent qu'elles mènent une résistance non violente. 2008, il y a quelques bateaux qui passent, dont celui de Vittorio Arrigoni. Ça donne un espoir fou, parce que ces gens sont sous blocus, mais si on peut arriver par la mer, on peut desserrer un peu le blocus. On peut amener le matériel médical, on peut amener les matériaux qui manquent crucialement, parce que un blocus, ça veut dire que des matériaux qui sont indispensables n'entrent pas, que des médicaments qui sont indispensables, par exemple les médicaments anticancéreux, n'entrent pas à Gaza, point à la ligne. C'est une décision et c'est fait. Donc le fait que des bateaux aient réussi à rentrer paraissait formidable. Et en plus, les bateaux partent de pays qui sont d'accord, naviguent en eau internationale, c'est leur droit, et arrivent directement sur Gaza. Donc en aucun cas, ça ne peut être pris comme une agression sur Israël, en aucun cas. Sauf que, deuxième partie de 2008, les bateaux sont deux bateaux partent, ils sont arraisonnés. 2009, ils sont arraisonnés. 2010, l'idée est de dire, bon, c'était des petits bateaux, on va faire des grandes flottilles. Là, tout le monde va les voir avancer, le monde va les défendre. Donc, en 2010, il se crée très grande flottille, l'opération s'appelle Free Gaza. Elle est soutenue par l'association humanitaire turque IHET. Et puis, il y a 6 navires qui, ensemble, emmènent 600 passagers avec des gens très connus, des prix Nobel, enfin, voilà. Les bateaux sont dédouanés, si j'ose dire, vérifiés, il n'y a absolument rien de dangereux à bord. On pense que ça va être un tournant dans le fait de casser le blocus. Parmi ces bateaux, le plus grand, c'est un grand ferry qui s'appelle le Mavi Marmara. En pleine eau internationale, les commandos israéliens arrivent. Ils arrivent par mer, ils arrivent surtout par air, par des hélicoptères. Ils vont descendre sur le pont supérieur et ils vont abattre. Il y aura 9 tués. Et quand on relève les tués, si j'ose dire, ils ont été complètement exécutés. Et je ne dis pas ça en l'air. Il y a eu des vidéos. Vous pouvez les trouver. Vous tapez Mavi Marmara, vous allez trouver les vidéos qui ont été faites à chaud et où vous voyez les soldats israéliens tranquillement installés sur le pont supérieur, dégommer les militants qui sont sur le pont juste en dessous. Ça a fait un très grand choc, c'est-à-dire que les flottilles se sont demandé si c'était... Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et la décision des flottilles de la liberté, ça a été de dire, tant qu'il y aura blocus, on naviguera. On ne veut pas céder à la peur, on naviguera. Donc il est sorti toutes sortes de... Tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, suivant les cas, des flottilles ont navigué vers Gaza. Aucune n'est arrivée. Le cas de la flottille de 2011, donc un an après le massacre, est intéressant parce que cette fois-ci, le point de départ, c'était la Grèce. Pourquoi pas, hein? Déjà, quand les bateaux commençaient à se rassembler au port, il y a eu des choses incroyables. C'est-à-dire que 2 bateaux ont été détruits, abîmés au port.
Un attentat, carrément, on peut dire.
Oui, complètement. Et puis, la Grèce a cédé aux pressions israéliennes et a interdit à la flottille de sortir. Ça veut dire que, y compris partir d'un pays qui n'a pas de raison d'être inquiet parce qu'il y a des bateaux qui partent de son port vers Gaza, joue le jeu de dire non, nous, on n'ose pas, voilà, etc. Blablabla. Bref, se plie devant les injonctions israéliennes. La flottille a été coincée dans son port. Quelques bateaux ont réussi à se faufiler en sentant le vent, en sachant que ça allait arriver, que les Grecs allaient prendre cette décision, ont réussi à partir avant. Ils ont été arraisonnés en pleine mer. Et c'est le cas de la magnifique Goélette Estelle de 2012, et c'est le cas de 2015, la flottille numéro 3, et c'est le cas de 2016, le bateau des femmes, et c'est le cas de 2018, le bateau sur lequel j'étais, le Alaouda. Ces bateaux sont arraisonnés depuis des années. Ils sont emmenés au port d'Ashdod. Ils sont fouillés intégralement. Donc, depuis 2011, il n'y a jamais eu le moindre objet suspect dans ces bateaux. Il n'y a pas toujours eu la cargaison dont on disait qu'elle était dedans et qu'on devait donner aux Gazaouis. N'empêche, Israël est maître de la mer. Ils ne viennent même pas, ils n'attendent même pas que les bateaux approchent. Une des choses, quand j'étais sur le Alaouda, donc l'été 2018, qui m'a vraiment égratigné. Ils sont venus nous attaquer, on était complètement en eau internationale. C'est totalement interdit. Les navires de guerre n'ont pas le droit d'agir en eau internationale. Qu'à cela ne tienne. Ils attaquent un bateau complètement non-violent, complètement paisible. On était plein de matériel assez léger, médicales, beaucoup de compresses, beaucoup de seringues, beaucoup de choses comme ça. Ils nous ont attaqué complètement en eau internationale et a pris le bateau et emprisonné pour 3 jours, hein, c'est le tarif en Israël. Voilà, donc quand on dit si on imaginait des manières non violentes, on passerait, c'est faux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. Moi, je crois que les flottilles, il faut les faire. Et pour, je peux donner un témoignage sur 2018. Donc, on était 21 sur le Al-Aouda. Sur les 21, il y avait presque autant de nationalités. Et il y avait un équipage essentiellement norvégien qui connaissait bien parce qu'ils étaient déjà venus quand le navire, les deux, on a été encadrés très loin par 2 énormes navires de guerre et puis c'est des espèces de hors-bord immenses, hein, qui sont venus bourrer de soldats qui sont venus nous prendre. Ils ont été d'une violence contre l'équipage incroyable. J'ai vu de mes yeux vus ça, je veux dire, c'est pas c'est direct. Le plus jeune sur le Al-Aouda, c'était le capitaine Herman. Je l'ai vu la tête prise dans les mains d'un soldat et le soldat lui tapait la tête sur le coin de la sur un coin en fer de la cabine de pilotage. Ils ont été d'une violence invraisemblable. Pour rien. Pour rien du tout, juste pour dire on est les maîtres et on va vous faire suffisamment mal pour que vous n'osiez plus naviguer. Voilà, il faut le savoir, il faut défendre les flottilles de la liberté ne serait-ce que pour un sentiment d'humanité, quoi. On ne peut pas laisser un État voyou se comporter comme ça. On ne peut pas. Sur le Al-Aouda, il y avait 2 Israéliens particulièrement courageux, Zohar et Yonatan Shapira. Peut-être un mot sur Yonatan. Yonatan, il est né en Israël dans une famille bien conditionnée, parce qu'il faut voir la mise en condition des enfants en Israël. C'est invraisemblable. Hein. Donc, pensant comme on le martèle dans toutes les écoles, que la chose la plus noble, c'est d'aller à l'armée. Donc il va à l'armée, il est pilote. Et puis un jour, on lui fait lancer une bombe sur Gaza. Et il dit non. Non, ça, c'est pas possible. Et donc, il va faire partie des petits groupes d'Israéliens particulièrement courageux qui disent « Cette politique-là, elle n'est pas possible. » Et il a envoyé un message, quand on a bien compris qu'on allait être arraisonné, il a envoyé un message vers les soldats en leur disant « Refusez d'obéir. Refusez, vous pouvez refuser d'obéir. Ne faites pas ça. » Ils l'ont fait quand même. On avait écrit sur nos gilets de sauvetage, il m'avait écrit en hébreu « Refusez d'obéir ». Mais le soldat m'a jeté par terre quand même. Voilà. Donc voilà, les flottilles, c'est vraiment un élément important du soutien. Entre le soutien aux producteurs, le soutien aux flottilles, le soutien aux jeunes, parce que la population de Gaza, elle est très jeune, et ils ont absolument besoin qu'on leur ouvre une fenêtre qu'ils ne sont pas seuls à se battre. Voilà, il y a de quoi faire. Appel aux auditeurs de Radio Larzac.
That we shall santé. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. One day.
Voilà, ça c'est une belle conclusion. Nous savons que ton temps est un petit peu limité, Sarah. Et à moins que tu veuilles rajouter quelque chose pour la fin de cette émission.
Oui, je voudrais rajouter, pour en rajouter une couche sur le fait que si les résistants étaient non-violents, ça se passerait mieux, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est pas vrai. Ça ne suffit pas, ce que je dis ne suffit pas à soi tout seul de choisir la lutte armée. Mais en tout cas, cet argument que s'il n'y avait pas de lutte armée, il n'y aurait pas de violence, ça c'est complètement faux. Un exemple absolument clair qui est celui de Gaza Arc. Puisque les flottilles ne pouvaient pas entrer, l'idée a été, on va fabriquer un bateau à Gaza, on va le remplir de produits de Gaza et on va le faire sortir. Ça, vraiment, les Israéliens ne peuvent pas dire que ça les menace. Ça, vraiment, c'est un bateau marchand qui va sortir. Donc, le Gaza Arc est acheté grâce à la solidarité internationale. Il commence à être équipé, il commence à être rempli. On commence à penser à quel moment il va pouvoir sortir. Et il a été dynamité au port. Voilà, aussi simple que ça. L'injustice, l'arbitraire, ça n'a pas de limite. Pour empêcher l'injustice et l'arbitraire, il n'y a que les mouvements des populations. Donc si nous, populations des pays dits riches, on doit jouer notre rôle là-dedans. Voilà.
On en est persuadé, Sarah.
Merci, Sarah, pour ce témoignage. On espère te revoir à Millau. d'ailleurs, et pouvoir éventuellement organiser une petite conférence avec toi, ça serait aussi intéressant. Eh bien, écoute, on voit bien que Gaza résiste. On soutient bien sûr toute cette résistance. Et donc, merci encore pour ton témoignage.
Merci à vous d'avoir ouvert les ondes. Merci beaucoup.
Voilà, je voulais rajouter quelques informations. D'abord, sur les musiques que vous entendrez donc cette émission. Hein, donc nous avons choisi l'hymne national de Palestine. Une pièce du trio Joubran. La compagnie Jolie Môme dans un chant qui s'appelle « Si loin, si proche ». Et Roger Waters, « We shall overcome », dans une vidéo pour la fin du blocus à Gaza. Par ailleurs, Palestine 12 organise, comme tous les ans, un petit ciné-Palestine. Donc il faut retenir la date du 6 mars prochain, organisé avec le Club Ciné, où vous pourrez voir le film « 200 mètres », qui raconte l'histoire d'une famille séparée par le mur. Et le 8 mars, « Le piège de Huda », qui traite des conséquences de l'occupation dans la société palestinienne et met en scène des femmes, le 8 mars étant la journée de la femme. Par ailleurs, au mois d'avril, nous avons programmé une conférence gesticulée sur le sionisme. Le sionisme avait été le point de départ de nos émissions sur Radio Larzac. Et donc Michel Benziri viendra à la fabrique donc le vendredi 7 avril à 20h30 pour une conférence sur le sionisme intitulée « Moi, juif, français, arabe ». Le 7 avril. La da 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 da